Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sally Bonne, Anaëlle Pigeat et Florian Guettet pour parler ensemble de Christian Boltanski, Faire son temps, c'est au Centre Pompidou. Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen, un Danois à Paris, c'est au musée Bourdel. Ben Russell, La montagne invisible, c'est au FRAC Île-de-France, le plateau. Et puis il y aura un coup de cœur d'Anaëlle Pigeat pour Le rêveur de la forêt, l'exposition en ce moment au musée Zadkine. Nous ouvrons cette dispute avec Boltanski, Faire son temps. À voir jusqu'au 16 mars au Centre Pompidou à Paris, 50 œuvres pour 50 ans de pratique artistique, un parcours dont nous allons parler. Le commissariat est signé Bernard Blisten avec la collaboration d'Annalise Rimondo et Hervé Deroux, la scénographie de Yasmine Osesebi. Avant de parler de l'exposition, on va tout de suite écouter un petit extrait de Christian Boltanski, qui était l'invité de la grande table d'Olivia Gesbert le 15 novembre dernier sur cette antenne.
Dans l'art, depuis le début, il y a extrêmement peu de sujets, et les sujets sont toujours à peu près les mêmes. C'est la recherche de Dieu, le sexe, la beauté de la nature, enfin on retrouve toujours à peu près les mêmes sujets, mais simplement on parle avec le langage de son temps. Et la jalousie chez Racine, où aujourd'hui est la même jalousie, mais on ne parle plus en alexandrin. Et donc, moi j'emploie les langages de mon temps, qui est la vidéo, la photo, l'installation, et en même temps, rien n'a changé. Et je suis un artiste totalement classique, et mes préoccupations sont les mêmes que ceux d'un artiste au XVIe siècle. C'est-à-dire faire de l'art, c'est poser des questions et donner des émotions. Et c'est ce que j'essaye de faire, mais surtout ne jamais donner de réponse. Ceux qui ont la pensent avoir la réponse sont des gens extrêmement dangereux.
Donc personnellement, je signe. Hein, vraiment, c'est les propos de Christian Boltanski. Une conception de sa pratique que j'apprécie particulièrement. Un premier tour de table, rapide quand même, pour un premier sentiment sur cette rétrospective. C'est quand même bien de cela qu'il s'agit. Boltanski, Anaëlle Pigeat.
Une exposition habitée par des esprits.
Sally Bonne.
Noir, c'est noir. Une exposition sombre qui manque peut-être de magie.
Et Florian Guettet.
C'est comme visiter une tragédie, donc c'est souvent saisissant, même si des fois je me demande si c'est si profond que ça.
Alors, on va pas faire tout le parcours, hein. On va expliquer comment cette exposition est construite. Et quand je dis 11, en l'occurrence, c'est Anaëlle Pigeat qui va nous expliquer ses grands partis pris.
Cette exposition, c'est vraiment un parcours construit comme une œuvre à part entière. Boltanski le dit beaucoup lui-même, d'ailleurs, que c'est une œuvre en elle-même. C'est une exposition qui est assez théâtrale, assez très scénographiée. C'est une exposition dans laquelle il y a une atmosphère sonore, des battements de cœur dont on a l'impression qu'il relie toutes les œuvres entre elles. C'est une œuvre, d'ailleurs, qui s'appelle Cœur, qui date de 2005. C'est une exposition dans laquelle il n'y a pas de cartel, donc qui invite vraiment à l'expérience sensible des œuvres. Les murs sont d'un gris foncé. On est plongé dans une sorte de semi-obscurité, éclairée par des ampoules nues, qui sont elles-mêmes partie des œuvres. Alors, c'est une exposition qui inspire assez fort la métaphore, qui peut faire penser à des palais de la mémoire, qui peut faire penser à une cave, paradoxale parce qu'on se trouve au sixième étage du Centre Pompidou, qui peut aussi faire penser à un voyage en train, puisque de chaque côté de l'espace d'exposition, de part et d'autre, dans les gaines des pompiers, défilent des images de paysages, donc on a l'impression d'être en quelque sorte dans les wagons d'un train. Alors, pour en venir vraiment au parcours lui-même, l'exposition est composée en deux parties. Un voyage aller, de la nuit au jour, qui commence, alors vous le disiez Arnaud, c'est pas vraiment c'est une rétrospective, en même temps ça veut ne pas l'être, il y a quand même une sorte de sens chronologique, et ça l'est quand même, puisqu'on commence avec deux œuvres très importantes du début, L'homme qui tousse de 69 et une des rares peintures conservées de Christian Boltanski, La chambre ovale de 67. Dans un grand couloir, première perspective, avec des alcôves de chaque côté dans lesquelles il y a des œuvres, se succèdent les premières œuvres, les vitrines de référence, toutes les œuvres inspirées des vitrines ethnographiques, notamment du musée du Trocadéro, puis les théâtres d'ombre des années 80, puis avec ces diablotins comme ça qui se promènent sur les murs, puis des œuvres des années 90, par exemple la réserve Hamburger Straße, il y a aussi le manteau de 1991, qui est une sorte de manteau plaqué au mur, entouré de néons, qui a une allure très christique. Et puis on arrive au bout de cette grande allée avec ses cadres de chaque côté des murs du couloir qui donne l'impression comme ça d'être peut-être dans les couloirs d'un château hanté. On arrive au bout de cette allée dans une pièce en plein jour, dans une magnifique ouverture sur la ville, avec la réserve des Suisses morts qui date aussi de 1991.
Description.
Un ensemble de boîtes de biscuits, son matériau de prédilection, qui sont superposées les unes sur les autres comme des gratte-ciels en quelque sorte, dans un empilement très fragile et qui évidemment évoque ses destinées de personnages plus ou moins imaginaires. Et des petites photos
sur chacune
des boîtes, exactement. Puis on repart dans l'autre sens. J'ai oublié de dire qu'il y avait un panneau départ et un panneau arrivée. La deuxième perspective du retour donc de la lumière à la nuit, qui s'ouvre par la magnifique vidéo mystérieuse qui date de 2017, dans laquelle Boltanski a entrepris d'interroger des baleines en Patagonie pour savoir si elles avaient une opinion sur les destinées de l'humanité.
On ira écouter les amérindiennes.
Et cette allée se termine sur le grand terril noir, avec de part et d'autre les deux films Animitas, récents également. Et entre les deux, toute une série d'alcôves avec des œuvres très très denses, essentiellement du début des années 2000.
On ne pouvait pas faire beaucoup plus rapide. Anaël Pija, merci. Sally Bonne, à présent, pour rentrer dans cette dispute.
Alors, c'est une exposition, vous l'avez dit tous les deux, qui ne se veut pas une rétrospective, mais qui l'est quand même, qui se présente comme une œuvre, puisque Boltanski essaye de refléter une temporalité dans les expositions, en mêlant le temps et l'espace, avec un début et une fin. Anaël l'a dit également, il y a ce départ et cette arrivée. Et ce départ et cette arrivée qui sont annoncés comme étant ce qui ouvre et ce qui ferme l'exposition, a un côté un petit peu, à mon sens, littéral, et qui colore un petit peu l'exposition, puisque cette exposition se veut la traversée, sinon de la vie, en tout cas d'une vie, pas nécessairement celle de l'artiste, celle de chacun, dans sa singularité. Même si celle de l'artiste est évidemment très présente, puisqu'il y a une part d'autobiographie dans l'œuvre de Boltanski qui est manifeste. Donc, après ces premières œuvres que Canal a décrites qui tiennent un petit peu du bricolage, de l'expérimentation avec des objets, avec des matériaux très différents, avec une forme aussi d'humour et de dimension un petit peu burlesque, hein, le film L'homme qui tousse, où c'est un homme dans un couloir.
Tu vois ça burlesque ou c'est terrifiant?
Oui,
l'homme dans un couloir qui tousse.
C'est terrifiant,
qui tousse,
c'est terrifiant, mais en même temps, les couleurs, le bleu, le rouge, on n'est pas loin du grotesque non plus, même si ça apparaît comme dramatique.
Parce que c'est en boucle, ça n'arrête pas, il tousse tout le temps.
Il tousse tout le temps.
Cet homme.
Et ça ne s'arrête jamais.
Non.
Et donc, après cette première période un petit peu du début du travail, en fait on entre dans le noir et l'exposition est effectivement très très sombre et on entre dans le noir et la plupart des œuvres sont faites d'images en noir et blanc avec ces boîtes de biscuits qui sont en métal et qui sont réutilisées. Et en fait, cette littéralité qui à mon sens pose un peu problème puisque elle condense en fait l'ensemble de l'exposition dans un espace qui est compris et dans lequel l'ensemble de l'œuvre est tenu. Alors il y a quelques exceptions, ce sont les films, notamment Mysterios et Animitas, mais qui sont en fait pas tellement visibles puisqu'ils sont pris en fait dans cette coloration extrêmement sombre. Et à la fin du parcours, on a un petit peu cette impression que il y a une reconduction du même. Et que là où on peut avoir des expériences, pour ceux qui ont eu la chance de voir l'installation au Grand Palais ou de voir des spectacles, parce qu'il y a quelque chose des spectacles de Boltanski qui sont absolument magnifiques, notamment celui qui avait lieu au à l'Opéra Comique qui s'appelait Pleine Nuit, où on voyait tomber la neige dans le sombre, ou pour ceux qui ont eu la chance, la grande chance d'aller à Teshima et de voir une des œuvres qui se trouve dans l'exposition, mais remise en scène différemment. Là où l'expérience de ces œuvres-là produisait un effet absolument magique et saisissant, comme Florian a évoqué, a utilisé ce terme-là, finalement est perdu dans ce quelque chose qui apparaît comme un système de répétition.
Florian Guettet, à présent.
Alors, je suis assez d'accord avec Sally, mais j'y reviendrai plus tard pour commencer peut-être par ce qui m'a plu vraiment. Mmh. C'est que je pense que Boltanski est un des grands tragédiens de notre temps. Et c'est vrai que l'exposition rend vraiment compte de cette théâtralité, de sa dimension théâtrale. Alors, faut rappeler peut-être quelques points de son travail, parce qu'il est très proche du théâtre, il est très proche de Cantor qu'il va rencontrer dans les années 80, il est très proche de Pina Bausch, il a une ambiance crépusculaire un peu dans la pénombre qu'on pourrait rapprocher de Castellucci ou de Yann Fabre, notamment ses ampoules qui tombent. Il y a une scène très appuyée, les théâtres d'ombre sont aussi très inspirés de Cantor, et tout le défi en fait de cette exposition, c'est comment on transforme des arts de la durée en arts de l'espace. Et parce que c'est un tragédien, finalement, il arrive à mettre en scène ces deux grands affects qu'Aristote assignait à la tragédie, à savoir la pitié et la terreur. C'est-à-dire que la tragédie, c'était comment on s'identifie à un être générique pour pouvoir, avec lui, craindre ce qui menace notre humanité commune. Alors du côté de l'empathie, de la pitié, je trouve que c'est très réussi, parce qu'on a vraiment une progression en fait du parcours vers des œuvres qui ont l'air ou qui le sont autobiographiques, avec des photos de famille, des souvenirs bio, des sortes de petits pièges qu'il construit quand il est enfant, avec des pansements, des clous, des choses, des matériaux assez pauvres. Et puis petit à petit, le propos s'élargit, le personnel va s'effacer sous le collectif, il y a une sorte d'anonymat qui va venir, et puis on a beaucoup de visages, de regards, de dates de naissance qu'on ne peut pas rattacher à une personnalité en particulier. Et là, il y a même un principe d'interchangeabilité, avec notamment deux œuvres, par exemple Portant, où les victimes et les criminels ne sont pas distingués, puisque d'un côté, on a les persécutions de l'autre des persécutés, sans qu'on sache quel est leur rôle, ou dans ce grand couloir Mainlich, qui est saturé d'images d'humains, d'individus, dont pareil, on ne sait pas quel est leur rôle dans l'histoire, s'ils sont du bon ou du mauvais côté de l'histoire. Et puis, cette pitié va de pair avec la terreur, puisqu'il y a quelque chose de très pesant, de très fragile. On a beaucoup de cercueils, par exemple les cercueils qui sont recouverts de drap noir qui s'appelle concession, les ampoules qui s'éteignent une par jour pendant tout au fil de l'exposition, ce tas de vêtements qui menacent de s'écrouler sur nous. Donc on a vraiment des menaces réelles, manifestes, qui sont là, et finalement la crainte, c'est de ne pas savoir où est vraiment la ligne d'arrivée, même si elle est finalement écrite à la fin, mais c'est vraiment nous confronter à ce hasard de la mort, aux accidents de la vie, et au fait que l'existence elle-même est injustifiable. Et c'est ça, je trouve ça plutôt réussi, parce qu'il y a une forme de normalisation du tragique, comme si on faisait quelque part un travail de deuil et qu'on apprivoisait notre issue commune.
Vous gardez vos réserves pour un deuxième moment, Florian. Anaël Figeard, qui nous a décrit l'exposition, mais pas encore vraiment donné son ressenti, sauf par une petite phrase au début de cette séquence. Anaël.
Je trouve que la première partie de l'exposition, ce voyage aller, est extrêmement bien tenu. Christian Boltanski parle de ses œuvres comme de petites paraboles, et on progresse comme ça dans ce cheminement vers la lumière qui est tout à fait bien réussi. Je trouve que, en revanche, la deuxième partie est effectivement, alors je la trouve très dense. Je trouve qu'il y a trop d'œuvres qui sont un peu des mêmes époques, qui donnent un effet de redondance. Et m'interrogeant là-dessus, je me disais que effectivement, ça crée, comme le disait Florian, un effet de lourdeur extrême, et peut-être au fond d'une lourdeur qui fait partie de l'œuvre de Christian Boltanski, et c'est le sujet même de son travail. N'empêche que j'en aurais mis un petit peu moins. Ce que je trouve intéressant dans cette deuxième partie, et dans l'ensemble de l'exposition en fait, puisque c'est effectivement un de nos grands artistes aujourd'hui, c'est de voir l'évolution de ce travail en 50 ans, de ces premiers petits objets, au fond, à une dématérialisation dans les années récentes, avec peut-être une période un peu plus difficile, un peu moins, dans laquelle il s'est peut-être cherché davantage, qui est bizarrement ce moment où je trouve qu'il y a le plus d'œuvres dans la deuxième partie de l'exposition. Mais je trouve que cette partie magnifique récente des grands films, donc Mysterios et les deux films d'Animitas, jusqu'au Terril noir, peut-être qu'on peut le décrire un peu plus, c'est donc un tas de vêtements entièrement noirs qui montent jusqu'au plafond du Centre Pompidou et qui donne une impression de claustrophobie extrême et de quelque chose d'extrêmement
entouré
mortifère.
Entouré de centaines de boîtes
absolument, et de quelques mannequins, ouais, en quelque sorte, qui chuchotent, bon, qui sont,
c'est voilà, pas le plus heureux,
c'est pas le plus heureux, je suis d'accord avec vous. En tout cas, ces films, je les trouve formidables, et je m'étonne un peu aussi qu'ils n'aient pas été montrés sur de manière plus vaste, plus généreuse, comme c'est le cas du grand film Mysterios, qui est au début de cette grande allée. Enfin, il y a une autre chose extrêmement touchante, je trouve, que montre l'exposition. C'est, j'espère que s'ils nous entendent, ils ne seront pas trop contrariés que j'affirme ça, mais c'est le dialogue de cette œuvre de Christian Boltanski avec celle d'Annette Messager. Ils travaillent côte à côte l'un et l'autre et de manière totalement séparée. Dans
mais ils
un
nous
extrême...
écoutent souvent, vous savez, l'un et l'autre.
Je le sais. En tout cas, je trouve que, et toujours de manière extrêmement séparée, je trouve qu'on voit dans cette exposition, me semble-t-il, plus que dans d'autres, en tout cas ça m'a frappé davantage que dans d'autres expositions, un dialogue entre leurs œuvres que je trouve très touchant et tout à fait intéressant à regarder.
Juste une toute petite intervention pour dire quand même mon plaisir d'être dans cette exposition et de ne pas avoir l'impression d'être au Centre Pompidou. Quand même déjà une réussite à mon sens. Donc c'est vrai, il y a un espace qui a été créé, qui est là, qui est unique, qui est le temps de cette exposition. Ça, c'est déjà une belle performance. Que le Centre Pompidou aussi censément fait qu'il est plutôt bien pour exposer des œuvres, ça reste un musée. Et là, on est vraiment dans un espace mental, et c'est quand même aussi l'enjeu de cette exposition, me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'il y a de la terreur, il y a de la noirceur, il y a de la morbidité, évidemment partout. Je vous livre quand même mon sentiment en sortant, c'est que je me sentais bien. Il y avait une sorte de presque d'euphorie douce à travers cette exposition, parce qu'il y a il y a quand même infiniment de douceur aussi dans le travail de Christian Boltanski, me semble-t-il. Comme vous l'avez pas évoqué, je me permettais cette petite incise. Un petit tour de table supplémentaire qui sera plus rapide, hélas, Sally Bonne.
Oui, non, pour revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la question de la littéralité, moi, ce qui m'a un petit peu posé problème, c'est l'idée que puisqu'il est question d'une dimension tragique de l'existence, puisque ce qu'on voit, ce dont il est question, c'est ce qui reste d'une vie, ses traces, ses reliques, ses images, ses objets. Donc c'est il est question de mémoire et de disparition, de vieillissement, de mort, de tombeau, d'absence de cadavres, mais aussi quand même d'avis de décès, des vêtements, etc.
Mais il y a un jeu derrière tout ça aussi, toujours.
Il y a un jeu, mais il est... Il m'a semblé, en tout cas, dans la manière dont l'exposition était tenue, que ce jeu-là, il était, en fait, il se perdait un petit peu dans la noirceur, en fait, de l'exposition elle-même, et dans cette surabondance. Et pour revenir sur cette question de l'effet de répétition, l'effet de répétition, il peut évidemment être très intéressant, et d'ailleurs Boltanski l'affirme, dans une vie d'artiste, on répète toujours les mêmes choses, mais il y a des moments de grande rupture. C'est ce qu'il dit dans l'entretien qui est dans le catalogue, qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, un entretien fleuve avec Bernard Blisten. Mais ces effets de répétition, en tout cas dans une très grande partie de l'exposition, puisqu'on retrouve un usage des photographies en noir et blanc, un usage, en tout cas il y a des mêmes procédés de démonstration, puisque les boîtes on les retrouve, et peut-être que là il y a quelque chose qui peut-être être problématique, parce que l'usage des boîtes et des photographies en noir et blanc, elles sont utilisées aussi bien pour parler des Suisses morts qui sont au bout de cette grande allée, aussi bien pour parler des enfants d'une école juive pendant la guerre, ou bien pour parler des ouvriers des mines de près du Grand Ornu en Belgique, à des périodes historiques différentes. Et en fait, cet effet de répétition a tendance peut-être à produire une sorte de lissage de l'œuvre qui est un peu dommageable, parce qu'il y a des éléments qui sont absolument magnifiques, notamment les films, et qui sont en fait qu'on voit pas suffisamment.
Florian Guetté.
Je souscris totalement à ce que dit Sally, puisque effectivement moi je bute un peu sur le fait que la théâtralité prenne le dessus sur le contenu et sur le fond, et que à force de l'utiliser dans ces scénographies, bah, finalement on en oublie la simplicité originelle qui faisait sa force. La surexploitation des boîtes à biscuits, les regards dans les voilures, je trouve que les voilures prennent beaucoup de place pour un effet finalement qui reste assez scénographique. Effectivement, il y a de la littéralité qui crée des sortes d'effets de surface avec ce tirer puis ce départ arrivé, ou les ampoules même qui s'éteignent. Bon, à part l'hommage à González Torres, je sais pas bien jusqu'où ça me touche. Et en fait, de l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont peut-être beaucoup plus profondes que les moyens qu'il emploie pour y répondre. C'est-à-dire que soit c'est des questions qui sont vraiment existentielles, très lourdes, très fondamentales. Qu'est-ce que la vie? Comment donner sens à la destruction? Comment appréhender le hasard? Soit ce sont des questionnements très factuels qui vont insister sur la définition même de l'art et l'illusion. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est un victime ou une bourreau? Est-ce que c'est la colonne de biscuits qui menace de s'effondrer va finalement tomber? Donc finalement, on reste sur des effets très théâtraux, enfin très de spectacle. Et cette simplicité-là, je trouve qu'elle ne porte pas forcément, qu'elle ne fait pas honneur à la complexité des thèmes qui met en jeu.
Donc voilà. Ah, déjà, va conclure.
Pour faire écho à la douceur dont vous parliez, Arnaud, juste un mot pour parler de fausse, le spectacle.
Non, mais c'est pas un mot qu'il faudrait. C'est le voir sur Arte quand ce sera diffusé.
C'est vrai. Fait une captation.
On en reparlera à ce moment-là. Non, mais c'est, si on part sur fausse.
Mais c'était tellement formidable qu'on pouvait pas en parler.
Oui, mais il y a très peu de personnes qui l'ont vu. Ça a duré un seul week-end. Beaucoup de représentations, certes, et beaucoup de public, mais une œuvre commune avec un compositeur, avec, enfin bon. C'est une œuvre à part et, quand le film sortira, on viendra en parler, je l'espère, dans cette émission. Parce que là, on a fait le temps, et plus que le temps pour Boltanski. C'est jusqu'au 16 mars 2020 au Centre Pompidou, qui donc a édité effectivement un formidable catalogue. À cette occasion, nous avons encore beaucoup de sujets. Nils Hansen, Jacobsen, Ben Russen et le rêveur de la forêt.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
La suite de cette dispute art plastique avec les contes étranges de Christian Boltanski. Ah non, de Nils Hansen Jacobsen. Ça pourrait marcher aussi. Un Danois à Paris. C'est au musée Bourdelle à Paris. Il s'agit donc de la première exposition monographique consacrée en France aux sculpteurs et céramistes danois contemporains de Bourdelle, qui a vécu à Paris de 1892 à 1902. C'est d'ailleurs à Paris que Jacobsen devient maître céramiste, comme on l'atteste notamment l'ensemble prêté par le Kunstmuseum des Vision, qui est partenaire de l'exposition, dont les commissaires sont Teresa Nielsen et Amélie Simier, le commissaire scientifique Jérôme Godot, et la sonographie est signée par la toujours subtile Cécile Degos. Un premier tour de table pour un premier avis sur cette exposition, ça n'est bonne ?
Une belle découverte, une œuvre protéiforme qui mêle goût de l'étrange, symbolisme, ornementation art nouveau et expérimentation plastique.
Florian Guettet.
Le Paris fin de siècle visité par la petite sirène. le beau est effectivement bizarre, mais je me demande jusqu'à quel point il y a influence entre la scène danoise et française.
Ouais, ça c'est une question sur laquelle nous allons revenir. Annaëlle Pigeat.
Une belle découverte qui a ses ambiguïtés entre une dimension fantastique hallucinée, l'exploration du mal sous toutes ses formes et une certaine mélancolie, voire une tristesse profonde.
On a envie d'en savoir plus, hein.
Thank you.
Voilà un peu de musique danoise, mais pas tellement contemporaine de Jacobsen. Mais alors là, Sally Bonne va se prêter à l'exercice de la description évidemment rapide
évidemment.
Du parcours. Vous ne donnerez pas les dates de chacune des pièces présentées.
Non, il y en a
sinon,
beaucoup.
Sinon, on va s'en aller.
Alors, donc c'est une exposition qui est bien construite, qui soigne les enchaînements d'une salle à l'autre. Elle est conçue autour de 5 sculptures de Jacobsen avec des jeux de confrontation et d'écho. On suit un parcours comme les méandres d'un cours d'eau ou le labyrinthe d'une forêt. D'ailleurs, les murs sont vert foncé. On entre dans l'exposition par un couloir à vocation biographique qui présente l'artiste danois et le cercle symboliste dans lequel il s'inscrit dès son arrivée à Paris en 1892. Il y reste 10 ans. Il s'installe dans un appartement-atelier du boulevard Arago, près duquel on trouve de nombreux autres artistes français et danois qu'il fait venir, parmi lesquels donc il y a des portraits en fait de ses contemporains danois, des portraits de lui donc par un artiste qui s'appelle Axel Hou, des portraits de la femme de Jacobsen qui est aussi artiste par une peintre danoise qui s'appelle Henriette Anne Brickman. Après ce couloir, on descend dans un escalier et là on tombe sur la figure d'Ophélie, une Ophélie plutôt tombante que flottante, assez étonnante. Et donc elle tombe à pic au fond de l'eau, entourée des ondulations de l'eau, de ses cheveux, de sa robe et des roseaux. Donc c'est on entre dans la fluidité, l'ondulation et la figure féminine, et c'est une salle consacrée à la petite sirène, évidemment celle du comte d'Andersen. Qui illustre le sculpteur Jacobsen avec un plâtre de 1901 qui est présenté sur un socle en hauteur. L'eau, puis la fille des mers, la petite sirène, les corps serpentins, les ondulations, les volutes, les arabesques du symbolisme. Donc on est dans l'eau et les rêves, comme dirait Bachelard, qui sont convoqués à travers des tableaux, des estampes, des céramiques de contemporains de Jacobsen, un tableau assez beau d'ailleurs, Île des sirènes d'Henri Brockman, un très beau Odilon Redon, un magnifique Gustave Moreau, Ulysse et les sirènes, des figures féminines qui sortent de l'eau, et toute une série de céramiques assez étonnantes d'ailleurs, qui nous permettent de rentrer justement dans la partie consacrée à l'alchimie de la céramique, un ensemble de coupes, de vases, de pots en grès émaillé qui est très intéressant d'ailleurs, avec une irrégularité des formes et des matières, où la matière est utilisée comme modelant la forme elle-même. Et là, on trouve présenté à côté des céramiques de Jacobsen, celle d'un céramiste français qui s'appelle Jean Cariès. Et c'est cette modulation en fait de la matière qui conduit Jacobsen à de nouvelles expérimentations, l'idée étant que du feu de la terre sort des monstres. Et là, on entre dans une salle assez incroyable, puisque trône au milieu de la salle un troll qui flaire la chair des chrétiens, qui est non seulement monumental, mais très très effrayant. Et donc on rentre dans la sauvagerie de la forêt psychique, donc une figure bestiale et diabolique, il y a un processus d'hybridation. Donc là, en relation, puisqu'il y a tout un jeu d'écho en fait dans chacune des salles, on a les détails des gargouilles de Notre-Dame en photographie, on a aussi la fantasmagorie de la forêt qui est illustrée par une œuvre de Jeanne Grasset qui est assez étonnante elle aussi, trois femmes et trois loups, et une des femmes en fait a une tête de méduse. Et dès lors, on entre dans la salle consacrée aux masques et aux méduses. Il s'agit d'affronter la Gorgone, donc belle série de masques, certains très réalistes, d'autres plus symboliques, masques de monstres marins, masques de trolls qui interrogent la frontière entre la représentation du visage humain et celle du monstre. Des sorcières aussi apparaissent, évidemment, méduses, des spectres, et cela conduit à l'avant-dernière salle qui est consacrée à la part de l'ombre. Le royaume des ombres est évidemment celui de l'inquiétante étrangeté freudienne, la trace du vivant comme son reflet impalpable. Et là, il y a une œuvre de Jacobsen aussi qui est très impressionnante, qui s'appelle L'ombre, on y reviendra sans doute pour la décrire, mais qui est très impressionnante, une sorte de flaque, une figure humaine qui semble sortir d'une flaque. Là encore, elle s'est entourée de photos de Brassai, d'une aquatinte de Kupka, d'une œuvre de Victor Prouvé qui s'intitule La nuit. L'ombre semble la part maléfique de soi et elle porte aussi une forme féminine. Et on entre dans la dernière salle, La mort et la mer, consacrée à l'arabesque du féminin, au centre de laquelle, encore une fois, une impressionnante sculpture de Jacobsen qui s'intitule La mort et la mer, entourée de toute... on retrouve en fait la figure, la fluidité ondulatoire de la femme, et là, elle est plutôt maléfique. Il y a une sorte de retournement, en fait, du parcours de l'exposition, puisque la fluidité première est plutôt légère. Du début, on arrive à une fluidité plutôt diabolique.
En effet, diabolique cette visite avec vous, ma chère Sally. Vous avez le droit de boire un peu d'eau pendant que Florian Guettet nous donne son sentiment.
Bah, écoutez, j'ai trouvé que l'entrée sur Jacobsen, sur cette figure de la peinture danoise, n'était pas inintéressant parce que ça permettait de faire la synthèse en fait, de tous les styles et toutes les techniques qu'il y a dans ce Paris fin de siècle, de vraiment la dernière décennie jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire la synthèse du symbolisme, du symbolisme français mais aussi danois, du japonisme qui est très très présent dans les salons parisiens et de l'art nouveau, hein, qui est évidemment le style de l'époque. Alors au niveau de la technique, en fait, Jacobsen va découvrir la céramique. Il va se mettre à faire de la céramique dans les années 90, notamment le grès émaillé. Ça va être vraiment son jouet. J'ai envie de dire jouet parce que vraiment il a une vraie passion très expérimentale et les céramiques qui sont présentées, elles ont ceci de particulier qu'elles sont forcément imparfaites, déliquescentes. Elles sont modelé de façon très appuyée, de façon à donner des objets complètement monstrueux, complètement en lien. C'est pour ça que c'est pas mal de les mettre en regard à côté du bestiaire qui a influencé les symbolistes. Donc Jacobsen travaille les émaux beaucoup. Donc on a aussi ses palettes, ses expérimentations. On a quelque chose d'assez complet sur cette technique ou ce médium qui est pas forcément le plus représenté en général dans les expositions d'art visuel. Et pour ça, le musée Bourdelle a très bien fait. Il va même avoir une médaille d'argent 1902 avant de repartir au Danemark au salon de la Société des Beaux-Arts. D'un point de vue stylistique, il est alors c'est pas lui le plus inspiré par le japonisme, mais on voit des estampes de Lune, notamment la Gloire du Seigneur, qui est vraiment une sorte de synthèse de l'orientalisme et de l'art nouveau, avec pareil toujours ces arabesques, toujours ces volutes, ces rondeaux, mais aussi une sorte de finesse et de subtilité dans le dessin qui rappelle l'art japonais. Le symbolisme va s'affirmer véritablement chez Jacobsen finalement en dehors du Danemark, puisque quand il arrive il va présenter des sculptures qui sont plutôt naturalistes et en fait le parcours montre bien comment il affine petit à petit son style symboliste avec d'abord la mort et la mer qui est voilà la sculpture qui le fait reconnaître qui est présentée en 1892 je crois 12 ou 13 je sais plus la sorcière de la mer qui est une petite statuette en plomb d'une femme complètement hilare pas très gracieuse et enfin le troll dont a parlé très bien Sally. Et puis thématiquement en revanche même si on a effectivement la mort la maladie qui sont très propres à cette angoisse de la modernité qui s'est installée qui est présent évidemment dans tous les symbolismes en Europe là par contre on n'a pas forcément une forme de communion thématique ou de référence. Hein, et c'est là que les rapprochements, pour moi, me paraissent un petit peu plus hasardeux.
Anaëlle Pija sur Jacobsen.
Effectivement, c'est un univers extrêmement fort que l'on découvre, marqué très fortement par ses origines nordiques, peut-être d'autant plus marqué par ses origines nordiques qu'il se trouve à Paris une forme de déplacement et que ce vocabulaire s'affirme chez lui depuis la première petite sirène que l'on voit jusqu'aux autres œuvres. Parmi donc le troll, on en a largement parlé, l'influence du Japon, il y a le masque d'automne aussi qui est absolument saisissant et il y a un très beau passage de l'exposition avec un ensemble de masques. Le masque d'automne, c'est une sorte de nuage de forme absolument terrifiant, dans laquelle, dans chaque centimètre, on peut lire un nouveau visage, presque comme une sorte de mise en abîme de visage, ou comme s'il fallait lire dans un nuage toutes sortes de formes. Il y a l'ombre aussi dont Sally parlait, qui est en fait une œuvre qui parle du mouvement aussi. Si on regarde la forme du pied de l'ombre, qui est comme propulse, on a l'impression qu'elle propulse toute la sculpture vers l'avant qui est d'une force extrême. Il y a dans l'exposition aussi cette présence du cercle parisien de la Cité Fleurie, 65 boulevard Arago, qui est tout l'entourage de Jacobsen qui est tout à fait qui est montré de manière très réussie. Il y a des découvertes dans cette exposition. Moi, je connaissais pas l'existence
déjà, évidemment comme lui, Jacobsen
pas du tout.
Non, mais première découverte quoi, pour moi.
Et puis son camarade Jens Lund, l'auteur de ce tableau dont parlait Florian à l'instant, qui est un tableau psychédélique en fait, et dont la commissaire raconte que elle a trouvé au dos du tableau une inscription qui montrait que cette œuvre avait été montrée dans une exposition au Grand Palais dans les années 70, et on imagine tout à fait que cette œuvre ne déparaît pas. C'est une œuvre qui a été peut-être conçue pour faire un vitrail, on pense, dans laquelle on voit ces lignes noires. Bon. Ensuite, si on parle de ce cercle comme ça d'artistes montrés autour de Jacobsen, il y en a beaucoup dans l'exposition. Peut-être un petit peu trop de temps en temps. Et puis, comme je le disais dans les premiers mots de l'exposition, je trouve qu'il y a en fait deux regards qui sont portés sur cette œuvre dans l'exposition. D'une part, une interprétation extrêmement freudienne, dans laquelle l'érotisme, le rêve, l'eau a une très grande part. Mais je trouve qu'on peut aussi lire cette œuvre d'une autre manière, avec une part d'humour assez forte. Par exemple, si on regarde le paysage de montagne stylisé, qui est une toute petite sculpture en terre, sur laquelle il a fondu du métal, et qu'en fait, je trouve assez réjouissante. Et puis, une tristesse. Je pensais aussi à ces presse-papiers qui sont des objets inutiles dans lesquels on a vraiment l'impression qu'ils s'amusent avec la matière et que, enfin, vraiment qu'ils s'amusent. Et puis, une forme de tristesse extrême qu'il y a dans ces œuvres et notamment, évidemment, dans la dernière œuvre de l'exposition.
Ah oui, ce coup-ci, moi, j'ai pas senti l'humour, hein, c'est comme ça. La dimension, enfin,
pas partout, évidemment.
Le côté freudien, mais c'est aussi le contemporain de la naissance de la psychanalyse. Donc, c'est aussi complètement logique qu'il y ait cette imprégnation. C'est peut-être notre regard qui le fait davantage et encore celui des commissaires, mais je voudrais quand même insister. Je l'ai cité déjà sur la scénographie de Cécile de Gosse, parce que si ces statues, on les voit aussi bien, vous décriviez très bien la façon dont elles nous saisissent, c'est qu'elles sont quand même remarquablement aussi mises en scène. Allez, une dernière idée chacun sur cette exposition.
Oui, très rapidement, il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette exposition aussi, c'est le rapport constant qui est fait entre la littérature et l'art. Et l'accompagnement, alors évidemment, les sculptures de Jacobsen, elles s'inspirent beaucoup des contes de de son compatriote
Andersen.
Mais c'est aussi, en fait, Florian parlait de la question de la modernité, en fait c'est aussi la poésie de Baudelaire, c'est aussi les contes imaginaires et un peu inquiétants d'Edgar Allan Poe, c'est Chamisso avec Peter Schlemihl. Donc il y a aussi cet environnement littéraire qui accompagne et qui semble en fait un socle de cette pratique symbolique et de l'art nouveau. Et une dernière chose quand même, peut-être sur les grès émaillés, parce qu'il me semble que il s'oppose dans toute l'exposition en fait cette espèce de stylisation du trait avec l'imagination de la matière qui est extrêmement dense dans les grès émaillés.
Heureuse époque que celle où les artistes s'intéressaient aux autres arts, peut-être moins le cas de nos jours. Florian Guettet.
Oui, peut-être que la littérature est un dénominateur commun plus révélateur que la vraie proximité en fait entre ces gens-là, puisqu'effectivement il y a la cité fleurie boulevard Arago qui est non loin en fait de l'atelier de Bourdel, donc de l'actuel musée Bourdel, mais en fait on n'a aucune preuve, on n'a aucune correspondance de vraiment leur rapport. On sait qu'on il y a des sculptures de Bourdel, il y a une sculpture chez Jacobsen, etc. Mais bon, rien n'est avéré. Donc finalement on a Jean Limé, Jean Gariès, Grasset, Jeannonnet qui vivent ensemble. On connaît leur rapport. Et puis, juste à côté, on a une communauté nordique avec Jacobsen, Jens Lund, comme on l'a dit, mais il y a aussi Henriette Hahn, Alex Hou. Et eux, on ne sait pas exactement comment ils se comportent avec leurs voisins. Donc du coup la proximité là, la mise en scène, le titre, fait que on pourrait un peu brouiller cette question là et qu'on ne sait pas bien quelle. C'est sûr que Paris a eu une influence sur Jacobsen. Est-ce que Jacobsen a eu une influence sur Paris? C'est moins sûr. Et puis sur ces rapprochements dont je parlais tout à l'heure, juste dire que il y a quand même un folklore et un bestiaire nordique qui est pas tout à fait le même que la mythologie gréco-romaine, que c'est difficile pour moi d'associer forcément Thor, les trolls, Locke et Loki à la méduse ou aux gargouilles de Notre-Dame, et que les sirènes par exemple de la mythologie germanique ne sont pas les sirènes d'Ulysse. Donc ces accointances sont pour moi un peu tirées par les cheveux.
Quand je dis une idée, il m'en donne deux, hein, vous avez remarqué. Mais il n'y aura pas de temps pour Ben Russell, et tant pis. Vous voulez dire une demi-chose, Anaël Pigeat, avant que votre coup de cœur n'arrive?
L'ouverture peut-être sur le surréalisme que Asger Jorn relevait à propos de l'œuvre de Jacobsen.
Voilà une belle conclusion. Parce que vous avez un coup de cœur à faire, je sens que vous êtes du coup motivé pour être plus brève. Les Contes étranges de Niels Hansen-Jacobsen, c'est jusqu'au 31 mai au musée Bourdel. Il y a un catalogue édité par Paris Musée. C'est l'heure donc, je l'ai dit, hein, du coup de cœur d'Anaël Pigeat pour Le Rêveur de la Forêt au musée Zadkine, quelques jours encore, jusqu'au 23 février. Anaël, pourquoi y aller?
Une exposition promenade dans l'atelier de Zadkine à Montparnasse à partir d'œuvres modernes et contemporaines. Elle a cela de remarquable qu'elle donne aux contemporains une profondeur historique et aux œuvres historiques une extrême contemporanéité. Alors, c'est l'artiste Ariane Michel qui ouvre et ferme magnifiquement la visite. D'abord avec sa vidéo d'une chouette qui nous observe en hauteur place de la Concorde, puis avec une œuvre sonore, la dernière du parcours, dont le son baigne toute la fin de l'exposition. On croirait les bruits de la forêt, mais ce ne sont en fait que des trucages. Et on découvre derrière un morceau de cimaise tous les outils qui ont servi à fabriquer cette œuvre et qui ressemblent à fabriquer cette musique presque, et qui ressemblent plutôt aux outils d'un magicien. Alors, cette exposition, c'est évidemment une remarquable façon de mettre en avant l'œuvre de Zadkine, de renouveler l'accrochage de ce petit musée charmant près du Luxembourg. Il disait « Les arbres et moi, nous sommes de la même essence ». Il était natif de forêts de Biélorussie, alors on voit son peuple de bois, des figures faites en taille directe, souvent monumentales, et puis ensuite ses têtes dorées à la feuille, plus proches de l'art déco. On éprouve la sensualité des matériaux, la façon dont il joue avec la forme des troncs, avec les veines du bois. Et puis ensuite, ses œuvres dialoguent donc avec des modernes, le formidable Conglomeros de Victor Brunner, qu'on verra d'ailleurs bientôt au Musée d'Art Moderne de Paris, la Croissance, une œuvre en marbre de Harpe, l'Homme hibou de Carré Lapelle, ou bien une magnifique chauve-souris de Germaine Richier, qui est comme une apparition dans le beau window du musée. Et puis des redécouvertes aussi, si on peut en parler ainsi, par exemple ce reliquaire de Bernard Réquichot qu'on voit à la fin. Il y a également des jeunes, Hicham Berada, Laure Prouveau, par exemple. L'exposition, évidemment, soulève des questions sur la préciosité de la forêt, de la nature dans nos vies, un sujet dont on parle beaucoup. Mais c'est une approche qui est très différente, par exemple, de Nous les arbres, l'exposition que la Fondation Cartier a faite à l'automne, formidable par ailleurs, mais qui là a posé la question de l'intelligence végétale, de la place de l'homme dans le vivant. Ici, l'exposition dit le danger de la disparition de la nature, mais avec une certaine distance, avec un humour là aussi qui est parfois presque enfantin. C'est une exposition qui parle vraiment d'art, de la forêt comme un réservoir de formes. C'est une exposition qui suggère tout et qui n'assène rien.
Et vous en parlez très bien et je la recommande tout aussi chaleureusement, cette exposition Le rêveur de la forêt, jusqu'au 23 février au musée Zadkine.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
La dernière exposition à notre affiche, c'est Ben Russell, La montagne invisible au FRAC Île-de-France, le plateau, encore une première française, cette exposition consacrée à l'artiste américain, né en 76, artiste, oui, cinéaste, commissaire d'exposition, et là le commissaire c'est Xavier Franceschi, cette exposition qui s'inscrit dans un projet plus large, inspiré par l'œuvre de René Dommal, Le mot analogue, c'est un récit d'un voyage mystique, on va dire ça comme ça, inachevé qui a inspiré nombre d'artistes.
I am dead because I have no desire. I have no desire because I think I possess. I think I possess because I do not try to give. Trying to give, we see that we have nothing. Seeing that we have nothing, we try to give ourselves. Trying to give ourselves, we see that we are nothing. Seeing that we are nothing, we desire to become. Desiring to become, we live.
Un extrait du film The Invisible Mountain pour la version française. On verra au site, bien sûr, de notre émission. Première impression, petit tour de table rapide sur l'expo Ben Russell, Florian Guettet.
Un bon trip dans tous les sens du terme.
Annelle Pijat.
Des images qui nous font entrer dans l'invisible, on est captivé, on s'ennuie aussi, c'est grisant.
Salut Bonne.
Quand le documentaire devient onirique.
Florian Guetté, qu'est-ce qu'on peut voir alors très concrètement dans cette exposition au plateau?
Plus précisément, qu'est-ce qu'on n'y voit pas, hein, puisque l'exposition en fait tourne autour d'une Arlésienne, un mirage, une absence, une montagne invisible, hein, inspirée de la nouvelle de d'Oman, qui serait donc une sorte de voyage utopique vers un point inatteignable, de représentation où on pourrait voir tous les points de vue possibles. Alors ce projet a donné lieu à un film qui prend lui-même plusieurs formes, où on suit un jeune artiste qui est aussi vagabond, pèlerin, enfin qui part souvent marcher tout seul, qui est en quête donc de cette montagne invisible. Et que l'artiste Ben Russell va suivre, et donc il va dresser une sorte de portrait filmé qui est entre eux, quelque part le documentaire et un road trip halluciné ou un peu psychédélique. Alors l'exposition entière est plongée dans le noir car il s'agit en fait de projections vidéo et sonores. Il y a trois films et le principal, La Montagne Invisible, occupe deux salles et cinq écrans. Donc quand on pénètre dans la première salle, on voit d'abord une sorte d'expérience de laboratoire où en fait Tuomo Tuovinen, donc le personnage principal, a un casque de captation des ondes cérébrales sur la tête, et l'artiste l'interroge sur le road trip qu'il a vécu et lui demande de se remémorer ce voyage depuis la Norvège jusqu'à la Grèce en passant par la Roumanie ou l'Ukraine. Et derrière cet écran-là, on a un autre écran qui lui diffuse une sorte de chaos d'images et de sons, comme si on voyait en direct le résultat de l'expérience cérébrale, comme si on plongeait en gros dans sa psyché ou sa psyché, sa mémoire, dans ce chaos de l'image mentale. On entend ensuite à la deuxième salle, la plus grande, où il y a trois écrans inclinés qui diffusent donc ce même film, soit en différé, soit en synchronisé. Donc un documentaire peut-être de facture un peu plus classique sur cette quête initiatique à travers l'Europe. Donc on voit le personnage marcher, se baigner, visiter des corps de cinéma en combinaison verte ou méditer, hein, comme on l'a entendu en introduction. Et Ben Russell est caméra à l'épaule et il intervient parfois pour interroger son personnage. S'y ajoutent aussi des images de concerts, puisqu'ils ont organisé une sorte de tournée post-punk ou rock progressif autour de ce voyage-là. Et des intercalaires, des couleurs primaires, RVB, qui viennent rythmer et qui viennent colorer la salle, donc plongée dans le noir. À côté, on a une salle adjacente, un projet un peu plus ancien de 2014, mais qui fait directement écho, qui évoque le mythe de l'Atlantis, dont Malte serait le sommet de l'île engloutie, donc qui est aujourd'hui récupéré par une sorte de culte chrétien, syncrétiste, une communauté des utopiens. Et puis, enfin, le projet est complété par une expérience visuelle et sonore, un film diffusé sur grand écran, réalisé par ordinateur, un peu à la Ryoji Ikeda, qui progressivement fait apparaître les contours d'une montagne sur fond d'effets stroboscopiques et de sons de synthèse qui retentissent comme des coups de poing, tantôt espacés, tantôt syncopés.
Voilà pour la balade, il reste 6 minutes 40 à se diviser par 3, vous faites le compte vous-même. Anaëlle Pijat.
Je voudrais revenir sur la figure de Tuomo Tuovinen que Ben Russell a rencontré, dont il a décidé de faire un film en fait. C'est une sorte de figure d'initié qui rappelle à la fois Taylor Mead, un des acteurs de Warhol qui lui-même a fait des films, grande figure du cinéma expérimental, qui peut faire penser aussi au personnage de Harmony Korine. On est vraiment dans cette veine-là. Et il faut dire que c'est très remarquable de l'avoir au plateau en ce moment, puisque c'est une figure quand même très rare. Or, c'est quand même un mythe vivant pour cet univers-là. Certes, c'est un peu une secte, mais c'est vraiment formidable qu'il soit montré de cette manière et qu'il ait réussi à transformer l'espace du plateau vraiment comme une sorte de labyrinthe, et puis peut-être aussi mettre l'accent sur le côté ésotérique de toute cette exposition, avec ces triangles qui indiquent la montagne qui ponctue l'exposition avec leurs reflets, ces miroirs qu'on l'on voit qui ponctuent les différents films, le côté hallucinatoire de la dernière œuvre qui évoque aussi les flickers du cinéma expérimental, de les clignotements du cinéma expérimental et de Paul Charitz, par exemple, grande figure des années 70, et le fait que Ben Russell fait aussi un petit clin d'œil au Buttes Chaumont, qui sont à proximité, dans cette dimension ésotérique, puisque on apprend que les Buttes Chaumont sont d'anciennes carrières qui étaient des refuges de vagabonds et de brigands, le personnage de Tuomo Tuovinen étant lui-même une sorte de figure un peu mystérieuse. Je trouve tout ça assez réussi.
La montagne invisible, ce sont les Buttes Chaumont. Vous avez révélé la fin de l'histoire. Sally Bone, sur Ben Russell.
Cette exposition, c'est une singulière expérience de cinéma réel et en même temps de voyage et de transe par laquelle il s'agit en fait d'entrer dans une autre dimension. Et cette autre dimension, elle se situe à la frontière de la fiction et de la non-fiction, puisqu'on suit ce personnage réel qui est Tuomo Tuovinen. Et en même temps, le rapport en fait entre celui qui filme, qui est Ben Russell, qui rentre ou qui sort du champ de la caméra, apporte en fait une dimension supplémentaire à ce documentaire et fait s'interroger sur ce voyage, puisque l'accent est mis sur le voyage hein, et le chemin plus que sur la destination qu'on atteint jamais, puisqu'on s'appuie sur ce roman inachevé de René Daumal, dont le sous-titre
qui est mort
était,
en l'écrivant, qui est, selon la légende.
Oui, et dont le sous-titre était « Ce roman d'aventure alpine non euclidienne et symboliquement authentique ». Donc on est là dans un Ben Russell parle à propos du film et à propos de son personnage de sujet utopique qui renvoie effectivement au film Atlantis, puisque on entend des chants d'utopiens, sans qu'on sache jamais si le sujet en question c'est le personnage ou c'est le sujet du film. Est à l'œuvre une sorte de réflexivité. Le film se pense en fait en se faisant. Il se réfléchit et il produit un effet de boucle et d'inachèvement qui est assez singulier. Et on se retrouve en tant que spectateur aussi pris dans une sorte de liberté, puisque on fabrique notre propre montage du film, puisqu'on peut jamais voir les 5 écrans de la montagne invisible, puisqu'il y en a 5 en même temps, qui invite nous aussi pour nous à une sorte de déambulation. On peut avoir deux écrans successifs où le personnage d'ailleurs passe d'un écran à l'autre et puis il est parfois en vert avec ce costume extrêmement étonnant hein, et singulier, parfois en short et en casquette. Et donc on est dans une sorte de rapprochement aussi de l'ordre de l'hallucination, puisque images, musique, performance et récit de soi s'entremêlent. Voilà, c'est une expérience de soi qui relève aussi de la quête.
Mais qu'il faut peut-être avoir envie de faire, place du spectateur. Florian Guettet.
Je crois qu'on se laisse embarquer assez facilement.
Il faut vouloir
se
laisser embarquer.
Il faut y aller.
Le désir, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. On a entendu hein, les méditations. C'est ça aussi, il faut le désirer.
On est très vite hypnotisé aussi, et c'est vraiment une des forces de à la fois la forme expérimentale du film, mais aussi de la mise en espace que j'ai trouvé vraiment très réussie, avec un côté donc, évidemment très sombre, très kaléidoscopique, hypnotique, baigné voilà dans ce son punk dont on ne sait pas exactement où est la source. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hallucination. Russell se dit lui-même l'hallucination de Tuomo, il se dit on double hallucination, et je trouve que ça est tenu de bout en bout, et du coup notre road trip piéton devient aussi une manière comme ça de naviguer dans un entre-deux auquel on s'était pas forcément préparé. Et juste pour terminer, j'ai trouvé très intéressant la façon dont notre regard et notre appréhension est elle-même progressive et ascendante. C'est-à-dire il y a les écrans inclinés qui nous poussent effectivement à monter le regard, il y a les silhouettes de reliefs montagneux qui apparaissent à la fin mais qui ne sont pas du tout anticipables, donc qui apparaissent véritablement, et puis cette montée en puissance du son et de l'image dans la dernière pièce.
Vous avez droit à un post-scriptum, Anna Elpija.
Il faut avoir envie d'éprouver l'ennui pour sentir le temps.
Ah, vous étiez très concis. Sally Bone va l'être moins.
On a oublié de dire que c'est quand même la boucle, en fait. C'est une boucle, mais elle dure quand même 72 minutes. Donc, en fait, pour voir la totalité du film...
5 fois 72.
Voilà.
C'est un peu plus long qu'une dispute, à peine.
Oui.
Florian, le mot de la fin.
Non, et puis il y a tout un travail de signes, de symboles sur l'indice, la référentialité, ce qu'on n'a pas parlé, mais effectivement, enfin, on a très peu parlé, mais il y a ces logos assez ésotériques, et puis il y a un travail aussi au ruban adhésif sur les vitrines, qui permettent là aussi de donner une forme de graphie à ce mystère qui n'a pas, voilà, qui n'a à aucun moment n'est résolu.
Ben Russell, si vous voulez faire ce trip dans la montagne invisible, c'est jusqu'au 5 avril au FRAC Île-de-France, Le Plateau. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, et le lâcher de l'air nous a rejoint pour d'abord nous donner la réponse du jeu d'hier. Nous rappelons peut-être quand même tout d'abord la question, Lola.
Quel prix Oliver Latch a-t-il remporté au Festival de Cannes 2019 avec son film Viendra le feu ? Et la réponse est le prix du jury de la section Un certain regard.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le film Adam de Mariam Touzani qui est sorti aujourd'hui sur les écrans français. Quelle est la question, Lola ?
Quel est le titre du premier court-métrage réalisé par Mariam Touzani, signant ainsi le début de sa carrière de réalisatrice ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Lola Schidler. Prise de son ce soir, Jacques Zuber. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions ou encore plus simplement vous abonner à son podcast. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature jeunesse. En compagnie de Marie Sorbier, Antoine Guillot et Henri Leblanc, à notre sommaire, les cavaliers de l'Apocadispe de Libon, Cigale de Chontan, Capricieuse de Béatrice Fontanelle et Lucille Plassin. Et il y aura plein de coups de cœur, parce que chacun des critiques demain aura droit à son coup de cœur.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque jour sur France Culture à 10h, prenons la vie avec philosophie, Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ?
S'il est un compositeur qui mérite le qualificatif de révolutionnaire, c'est Beethoven, ami de la Révolution française, qui opéra la plus importante révolution de la musique moderne. Génie plébéien à l'optimisme inébranlable, Beethoven, un créateur dans les lumières, les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi et sur franceculture.fr.
France Culture présente Notre-Dame du Nil, un film d'Atik Raimi. Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique Notre-Dame du Nil, des jeunes filles étudient pour devenir l'élite du pays. Elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d'adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l'école, grondent des antagonismes profonds qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays. Notre-Dame du Nil, aujourd'hui au cinéma. Un film France Culture.
Et ce soir sur France Culture à 20h30, les fictions de France Culture vous proposent le troisième épisode des pages arrachées à Zébald, dans une réalisation de Laurence Courtois. À 20h55, les carnets de la création d'Aude Lavigne. Elle recevra Maud Pison et Jérôme Brabant, danseur, chorégraphe. 21h, Par les temps qui courent. Marie Richaud sera avec Hubert Collat pour sa mise en scène des textes de Mathieu Riboulet. Nous campons sur les rives au théâtre Nanterre Amandier. Je vous conseille également vivement d'aller voir.